Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce jeudi 4 avril 2024, José Andrés, le chef qui a fondé l'ONG World Central Kitchen, accuse Israël d'avoir délibérément ciblé le véhicule qui transportait les 7 humanitaires qui ont été tués par une frappe aérienne dans la bande de Gaza, parmi lesquels se trouvait une femme australienne. L'OTAN célèbre donc aujourd'hui son 75e anniversaire. À cette occasion, les représentants des 32 pays membres de cette organisation militaire se rassemblent aujourd'hui à Bruxelles. Et puis c'est officiel, Taylor Swift est la première artiste à devenir milliardaire, et ce uniquement grâce aux revenus générés par son activité musicale. La frappe aérienne qui a tué 7 humanitaires dans la bande de Gaza en début de semaine, parmi lesquels une jeune femme australienne, Zomi Francom, était délibérée. C'est l'accusation très grave formulée dans une interview par le fondateur de l'ONG World Central Kitchen, le célèbre chef José Andrés, qu'il contredit donc ainsi les autorités israéliennes. Celles-ci ont reconnu hier être à l'origine de cette frappe, mais l'ont qualifié, je cite, de graves erreurs et de produits de la guerre. José Andrés, pour sa part, a ajouté que les circonstances de cette attaque n'étaient pas encore clairement établies.
17 members between the specialty security people we have, 3 British individuals and 3 international crew plus 1 Palestinian, that they were target systematically car by car. They attacked the first car. We're still trying to get all the information on what happened on the first car. We have a feeling they were able to escape safely because it was an armored vehicle.
Le gouvernement australien, pour sa part, et encore aujourd'hui par la voix du Premier ministre Anthony Albanese, a estimé que les explications et les excuses du gouvernement israélien étaient inacceptables. Il a rappelé également qu'il appelait, comme une large partie de la communauté internationale, à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au respect du droit humanitaire. Enfin, la famille de Zomi Francom réclame pour sa part l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. En Australie, justement, le Premier ministre Anthony Albanese s'est rendu il y a quelques minutes à un sommet des PME qui se déroule à Sydney, un sommet durant lequel il est censé dévoiler les contours de sa politique énergétique, et ce, à quelques semaines du vote du budget. L'opposition conservatrice compte pour sa part avancer ses propres propositions en la matière, notamment convertir d'anciennes centrales à charbon en centrales nucléaires. Lors d'une interview accordée à nos confrères de ABC, Angus Taylor a vivement critiqué la politique actuelle du gouvernement, estimant qu'elle avait plombé le pouvoir d'achat des particuliers et des entreprises.
We've seen big increases in prices, Lisa, and that's the reality. So the typical Australian household, as I say, $1,000 more than they would have expected at this time. And that's a lot of pain at a time where we're seeing big increases in calls to helplines, whether it's for household debt or small businesses. We've seen an 82% increase in calls to helplines for small businesses.
Sortez vos parapluies, des trombes d'eau vont s'abattre sur une large partie de la côte est australienne au cours des 48 heures à venir, selon le bureau de météorologie, qui a par ailleurs émis des alertes crues et inondations sur toute une zone comprise entre le sud-est du Queensland et la South Coast de Nouvelle-Galles du Sud. On attend ainsi jusqu'à 200 mm de pluie dans la région de Sydney, avec des risques de crues majeures autour des rivières Hawkesbury et Nepean, tandis que Brisbane et Canberra vont également être frappés par des pluies torrentielles. Le bureau de météorologie prévoit également des vents très puissants de plus de 100 km/h et donc des énormes vagues tout le long du littoral. Les nageurs et les surfeurs sont donc appelés à la plus grande prudence et même dans l'idéal à rester au sec, tandis que les automobilistes, eux, sont invités à reporter quand c'est possible leur déplacement. À Taïwan, au lendemain d'un tremblement de terre de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter, les efforts se poursuivent pour venir au secours des sinistrés, pour certains toujours coincés sous les gravats d'immeubles qui se sont effondrés. Je vous propose d'écouter le témoignage de Su Chen-wei, le maire de la ville de Hualien, toute proche de l'épicentre de ce tremblement de terre, le plus fort ayant frappé Taïwan au cours des 25 dernières années.
All residents and businesses from buildings that are in a dangerous state were evacuated. Now the search team is only concentrating on one building where we found the remains of a lady whose surname is Tang, who will be retrieved soon.
Ils ne s'étaient pas parlé depuis octobre 2022. Hier, le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, a échangé au téléphone avec son homologue russe, Sergueï Chogou. Deux sujets ont été abordés, l'attentat de Moscou revendiqué par Daesh et qui aurait fait au moins 144 morts, mais aussi, bien sûr, la guerre en Ukraine. Compte rendu de cette conversation, Heike Schmidt pour RFI.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entretiens entre Paris et Moscou étaient devenus rares. La conversation, qui a duré une heure, s'est déroulée à la demande de Paris, à un moment où les relations entre les deux pays sont pour le moins crispées, alors que le président français Emmanuel Macron s'est attiré les foudres de son homologue Vladimir Poutine pour avoir dit ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Paris continuera de soutenir l'Ukraine aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire dans sa lutte pour la liberté et la souveraineté, a rappelé Sébastien Lecornu à Sergueï Chogou. Autre sujet de l'échange, l'attentat de Moscou revendiqué par le groupe État islamique. Le ministre français des armées a proposé des échanges accrus avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme, à un moment où la France est en alerte maximale face au risque d'attentat sur son sol à 4 mois des Jeux olympiques.
L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fête donc aujourd'hui son 75e anniversaire. Pour l'occasion, les ministres des Affaires étrangères des 32 pays membres se rassemblent aujourd'hui à Bruxelles, où se trouve le siège de l'organisation qui doit par ailleurs décider prochainement si elle renforce son aide militaire à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a quant à lui chanté les louanges de l'actuel secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à qui il voue d'avoir su préserver l'unité de cette alliance.
None of us could have hoped for a greater champion for this alliance than Jens Stoltenberg. No one could have done a better job holding us together when others were trying to divide us. No one could have done a better job really carrying the alliance forward. And Jens, we've all said it in different ways at different times, but it always bears repeating, we're so grateful for your leadership. Thank you.
Et je vous le rappelle, nous reviendrons plus longuement sur longtemps l'OTAN et son histoire un peu plus tard dans l'émission. En Inde, des combats de plus en plus intenses opposent l'armée régulière à la rébellion maoïste. Hier, l'armée a ainsi déclaré avoir tué 13 combattants armés, des insurgés qui, depuis près de 50 ans, disent défendre les populations des forêts du sud, du centre et de l'est du pays, où s'est déroulée cette dernière intervention de l'armée. Précision François Ballarin pour RFI.
Les affrontements ont eu lieu mardi à l'aube et ont duré pendant 8 heures environ. Des paramilitaires et des membres des forces spéciales ont pris d'assaut un groupe supposé de 100 rebelles maoïstes dans la forêt de Bijapur, dans l'état du Chhattisgarh. 13 combattants ont alors été abattus et des armes automatiques ainsi que des lance-grenades ont été récupérées. L'armée estime qu'ils faisaient partie de la guérilla armée de libération populaire, le bras armé du parti maoïste qui est interdit en Inde. En tout, 22 combattants maoïstes ont été tués en 2 semaines dans cette région. Une intensification des opérations militaires qui est certainement liée à l'approche des élections. Les habitants de cette zone du Chhattisgarh vont voter le 19 avril pour renouveler leurs députés fédéraux et les rebelles mènent régulièrement des attaques contre les candidats pendant la campagne. Le gouvernement veut donc repousser ces combattants pour empêcher ces violences.
Un mot de football maintenant. L'ancien président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, déjà accusé d'agression sexuelle par une joueuse de l'équipe nationale, Jenny Hermoso, vient d'être arrêté à Madrid où il doit répondre d'accusations de corruption. Il lui est notamment reproché d'avoir reçu des commissions illégales au cours de négociations visant à faire jouer la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Je vous propose d'écouter les explications de la journaliste de Liga TV, Semra Hunter, qui s'est exprimée sur le sujet au micro de la BBC.
It feels as though it's been a long time coming. It feels as though the chickens have come home to roost. This has been somewhat of an open secret here in Spain, in that these allegations have been rearing their ugly head for years now. Spanish media have been talking about these allegations for a very long time and have been calling for these things to be investigated properly. And so for whatever reason, that time hasn't come about until now. As it relates to this particular case, the police are saying that they've started their investigations back in June of 2022, so about a year and a half ago. And it has now taken them to this stage today where they feel as though they are going to potentially take this to trial and see what it is that will be the ultimate outcome for him. But yes, unfortunately, for many people who have worked with him and spoken very publicly about this, and even his own family members have come forward to talk about a litany of all different kinds of scandals that have been associated with Luis Rubiales during his time as the Spanish Football Federation president, and even before that as well.
Et c'est désormais officiel, la superstar américaine de la chanson Taylor Swift est milliardaire, selon en tout cas le magazine Forbes. Elle devient ainsi la première artiste musicale de l'histoire à le devenir, et ce, uniquement grâce aux revenus générés par son activité artistique. José Marinho pour RFI.
Décidément, l'interprète du succès Shakitoff est la pop star de tous les superlatifs. Taylor Swift est devenue milliardaire, car 2023 a été une année historique pour l'artiste américaine, avec un patrimoine désormais estimé à 1,1 milliard de dollars. De tous les artistes hommes et femmes, elle est la première chanteuse à avoir franchi le seuil des 10 chiffres, uniquement grâce à ses revenus tirés de la musique. À l'origine de sa fortune, les recettes faramineuses de sa tournée de Eras Tour en passent de devenir la plus lucrative de tous les temps, avec 152 dates à travers le monde dont les billets s'arrachent à prix d'or. À la fois auteur ou co-auteur de presque toutes ses chansons, mais aussi productrice ou coproductrice, Taylor Swift a multiplié ses revenus pour chaque titre. À 34 ans, la jeune femme a le sens des affaires et même réenregistré ses 6 premiers albums dont elle ne possédait pas les droits d'enregistrements originaux. Son catalogue musical est estimé aujourd'hui à 500 millions de dollars.
Et au-delà des intempéries prévues au cours des 2 prochains jours sur la côte est dont nous avons déjà parlé, on termine en faisant un petit point rapide sur la météo en Australie ce jeudi 4 avril. 31 degrés et du soleil à Perth, soleil également à Adélaïde où il fera jusqu'à 22 degrés, 19 degrés à Melbourne et Hobart, 20 degrés à Canberra, 23 degrés à Sydney, 28 à Brisbane et jusqu'à 34 degrés aujourd'hui à Darwin.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.